Salut à toi, oh mon frère. Salut à toi, peuple khmer. Salut à toi, l'Algérien. Salut à toi, le Tunisien. Salut à toi,
Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Théo et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission de Pas de frontières pour la rage. Je vous rappelle le principe, il est simple. Nous rencontrons une personne parlant français et qui vit depuis plusieurs mois dans un pays étranger afin d'en découvrir la culture, les traditions, les climats, les anecdotes, etc. Plusieurs émissions ont déjà été réalisées en direct de Palestine, de Russie, de Suède ou encore d'Espagne. Vous pouvez retrouver ces émissions dans l'onglet podcast des émissions. Loan va animer cette émission avec moi.
Salut.
Aujourd'hui, nous sommes avec Christelle et Johanna. Bonjour les filles.
Salut. Bonjour.
Alors, quel âge avez-vous?
21, toutes les deux.
Vous venez d'où, en France métropolitaine?
De Tours.
De Tours? Ah bah, c'est pas loin. dans quel pays êtes-vous en ce moment?
On est au Pérou.
ça se situe où, le Pérou?
En Afrique du Sud. En Amérique du
en
Sud.
Amérique du Sud.
Est-ce que vous pouvez préciser à quel endroit de l'Amérique du Sud?
C'est au nord de l'Amérique du Sud. Il y a une frontière commune avec... C'est entre la Colombie et la Bolivie.
Oui, donc... ouais, c'est en Afrique du Sud.
En Amérique du Sud.
Oh là là. quelle est la capitale du Pérou?
C'est Lima.
ça fait combien de temps que vous êtes au Pérou?
Alors moi, ça fait 2 mois et demi.
Ouais.
Et ça fait bientôt 2 mois.
Il y a beaucoup de décalage horaire avec la France ou pas?
Il y a 6 heures de décalage en tout.
Donc là, par exemple, nous, il est 16 heures pendant l'enregistrement de l'émission. Il est quelle heure chez vous?
Et nous, il est 10 heures.
Ah oui, réveil, donc, tranquille,
c'est...
ouais.
Ça en avance, quoi.
C'est ça, ouais.
Non, c'est en retard plutôt.
Ça dépend où tu te places.
C'est ouais. En avance, ouais.
Comment est-ce que vous qualifiez le climat où vous êtes et quelle température fait-il?
Alors, il y a plusieurs climats différents au Pérou. Nous, là, on est dans la montagne, en altitude, dans les Andes, dans la cordillère des Andes. Et c'est plutôt un climat tropical. Ouais. Il fait beau, il y a du soleil, mais après, c'est la saison pluvieuse en décembre. Et ouais. Du coup, ça arrive qu'il y a des fortes pluies quand même dans la journée. La journée, il fait bien chaud, mais la nuit, il fait bien froid.
Par quel dispositif vous y êtes allé, par exemple, pour un stage
Alors, pour moi, Christelle, c'était pour un stage pour mon école éducatrice spécialisée à Tours. Mmh. Et moi, dans la même association, je fais un volontariat.
Et
je suis venue par mes...
Mais pourquoi vous avez choisi le Pérou?
Alors ça, c'est suite à une opportunité de mon cousin, en fait, qui avait fait une mission humanitaire dans cette association. Et comme je cherchais un stage à l'étranger pour mon deuxième stage, après un week-end passé avec lui, il m'a passé le plan. Et du coup, bah, ça a fonctionné tout de suite avec la présidente de l'asso.
Et du coup,
Johanna, par le même biais.
Et du coup, c'est quoi cette association?
Alors, l'association s'appelle Munaiwasi. C'est une association franco-péruvienne qui apporte une aide pour les paysans d'une région pauvre du Pérou. Donc nous, on est à Andahuaylas. C'est vraiment, comme disait Johanna, dans la cordillère des Andes. Et du coup, il y a plusieurs missions, en fait. Donc, il y a une mission sanitaire, une mission d'animation avec des enfants, une mission de culture un peu dans les jardins.
C'est un peu comme l'UNICEF.
À moindre échelle.
C'est de l'humanitaire. Vous êtes logé où, du coup?
Dans l'association. Il y a des chambres pour nous, ouais.
Ah oui, donc c'est sympa.
C'est une maison, en fait. On est avec d'autres volontaires.
C'est pas votre charge?
Si. On paye quand même tous les jours, mais... Donc ça en se laisse. On paye 10 sols tous les jours. Alors on paye l'équivalent de 3 euros, ça fait, par jour, pour loger ici.
C'est pas cher, ça va.
Ouais, ça va.
Et vous vous sentez en sécurité dans ce pays?
Oui. Ouais, je me suis jamais sentie en insécurité. Vraiment, jamais. Bah, c'est comme partout quand on voyage. Faut faire parfois un peu attention à ses affaires et attention à soi tout court. Mais si t'es vigilant, ouais, y a pas de soucis. Je me sens pas moins en sécurité qu'en France ici.
Et du coup, vous comprenez, parlez et écrivez le péruvien?
Alors, c'est l'espagnol.
C'est de l'espagnol, du coup. Oui, c'est de l'espagnol, du coup. Ouais.
À la base, nous, on a appris l'allemand à l'école. Du coup, on est arrivé avec pas beaucoup de bases, enfin très peu même,
moi rien.
Et en fait, ça s'apprend super vite l'espagnol une fois que dans le pays, les mots ils sont quand même très similaires et à force d'être vraiment ancré dans la vie péruvienne avec tous les locaux et tout, maintenant on arrive à le comprendre, on arrive à se faire comprendre et on arrive un peu à lire. Écrire c'est autre chose.
Ouais. Moi j'avais du mal à lire et je sais pas l'écrire, mais.
Bah du coup. C'est le problème avec l'allemand. Hein.
T'as pris quoi, toi, Théo ?
Bah, allemand. J'aurais peut-être pas
dû. Tu verras, c'est plus facile à apprendre sur le tas que l'allemand, je pense.
Ouais, l'allemand, c'est assez dur. Alors là, ça va être la pause musicale. Donc, quel artiste avez-vous choisi pour cette première pause musicale ?
Alors, c'est une musique qui passe dans tous les transports en commun, dans tous les restos. Enfin, on a l'impression de l'entendre un peu tout le temps. Voilà. Donc, on a pensé que ça pouvait être bien, du coup, de la faire diffuser. Ça s'appelle Porqué te Bas et donc c'est vraiment la musique traditionnelle de la région où on est, l'Andahuayla.
Donc Porqué te Bas.
Ok, donc on va faire une petite pause musicale avec Porqué te Bas et on se retrouve tout de suite après avec Johanna et Christophe.
Quiero que tú me digas por qué te
Porque te vas que vous venez d'écouter. Donc on va reprendre l'interview. Quel est le climat social et politique c'est tendu en ce moment ou c'est plutôt un bon régime?
Alors, pour être honnête aussi, on n'est pas hyper au courant, mais en ce moment, c'est des périodes d'élections. Il y a des élections régionales et il y aura bientôt des élections présidentielles, je crois.
Un peu comme en France, quoi.
Oui, voilà. C'est même période. Et ouais. Mais les gens en parlent pas tant de ça en fait. On le voit beaucoup parce que ici il y a pas d'affiches pour les campagnes d'élection, mais c'est des écrits, des peintures en fait sur les murs et on en voit beaucoup quand on se déplace en bus et tout. Et c'est assez marrant comme moyen de communication, ça change de chez nous, de tous les médias, ouais.
D'une démarche très solennelle, ouais, et très cadrée. En ce qui concerne le climat social, est-ce que vous pouvez considérer que c'est un pays où la pauvreté, elle est assez importante, où le chômage, il est assez important? Vous le ressentez comment, tout ça?
Alors nous, on est dans une région pauvre, déjà. Enfin, quand on va se balader, qu'on part un peu en week-end dans d'autres endroits, et qu'on dit aux gens qu'on vient de Andahuaylas, les gens nous disent « Ah, c'est très pauvre là-bas » et tout. Ici, on le ressent... Ici, il n'y a pas autant d'action sociale, en tout cas, qu'en France. Il y a plein de métiers qu'on a en France qui n'existent pas au Pérou. Et du coup, le taux de chômage aussi, il est quand même beaucoup plus élevé qu'en France, globalement. Mais après, ouais, ça dépend des régions parce que c'est quand même un grand pays. Et nous, on est dans une zone très rurale avec beaucoup d'agriculteurs, de paysans, voilà.
Alors là, on va plus aller dans un côté... géographique. Est-ce que c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de montagnes au Pérou, que c'est un pays très en altitude?
Ah oui, c'est vrai. Ça, oui, c'est pas un mythe. Il y a beaucoup de trek à faire. Ouais. Avec la chaîne de montagnes.
Il y a des montagnes partout. Enfin,
moi, je m'y attendais pas tant que ça, mais en fait, ça fait du coup 2 mois et plus qu'on n'est pas sorti des montagnes.
Et on a entendu dans l'actualité, on a pu entendre parler de séisme, et c'est un pays qui est souvent soumis à ce type d'événements climatiques.
Alors oui, il y a eu un séisme à un moment, mais on l'a su une semaine après.
Ok.
Mais je savais pas du tout qu'il s'était passé ça. Et mais ouais, c'est des choses qui arrivent ici, comme dans les zones. C'est comme dans toutes les zones, en fait, il y a eu un séisme au Chili il y a pas longtemps. Ça arrive régulièrement.
Si on s'intéresse un petit peu au passé colonial, donc c'est les Espagnols qui sont arrivés au Pérou, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Ok, et il se fait encore...
On est venu coloniser le Pérou, mais c'est les Espagnols qui ont gagné, on va dire.
Ok, qu'on perdurait. Il se fait encore ressentir ce passé colonial?
Ça dépend des endroits, mais il y a beaucoup de villes... notamment la deuxième du pays, Arequipa, qui sont des villes avec un style très colonial, des villes blanches, l'architecture, voilà, avec une architecture coloniale où on ressent beaucoup la trace des Espagnols qui sont passés par là.
Mmh. Et la religion principale, c'est laquelle?
Le christianisme.
Et
vraiment, ça, c'est pour tout le monde. Tout le monde est très, très chrétien. Et,
ils sont très croyants.
Ils font tous un signe de croix en passant devant les églises. Dans tous les transports en commun, il y a toujours des petites photos un peu religieuses,
des icônes.
Ça se sent beaucoup.
Et si je peux vous demander, est-ce que vous êtes chrétienne ou pas?
Moi, non. Et moi, je suis ouverte à la question, mais pas pratiquante.
Ok. Et donc, est-ce qu'ils le conscientisent, ça? Ou alors, ils s'étonnent du fait que vous n'êtes pas croyante?
Ça les étonne beaucoup, oui. Ils ont du mal à concevoir qu'on puisse ne croire en rien, en fait. C'est pas... Ils trouvent ça triste, j'ai l'impression, en fait, quand on leur dit qu'on est athée.
Pour revenir sur les grandes montagnes et tout... du coup, il y a vraiment pas de plage là-bas?
Ah si, il y a des plages, et parce qu'il y a toute la côte pacifique à l'ouest du Pérou, mais nous on est dans les montagnes du coup.
Oui, c'est pas des grandes falaises au bord de l'eau où on peut pas se baigner. Mais il y a quand même des plages.
C'est au nord du Pérou qu'il y a des grandes plages avec des gens qui font du surf beaucoup. On peut se baigner apparemment.
Ah oui, donc c'est
un peu... Si on aura le temps d'y faire un tour avant de rentrer. Mais...
Donc moi, quand je pense au Pérou, moi je pense à Cusco, je pense aux Incas. Après les Incas, je pense que c'est, je crois que c'est pas que au Pérou, c'est un peu partout dans l'ouest de l'Amérique du Sud. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que ça a une place aussi importante dans les villes que vous avez visitées et dans la culture et dans les traditions, ces Incas?
Ah oui, c'est super important
partout
et surtout à Cusco du coup. Voilà, parce que nous on n'est pas très loin de Cusco en fait, on y est déjà allé plusieurs fois. Enfin, on n'est pas très loin à vol d'oiseau, mais comme on est dans la montagne, c'est à 9h, mais ici c'est relatif les temps de transport, 9h c'est pas beaucoup. et donc à Cusco, oui, c'est très très important, bah c'est l'ancienne capitale Inca et il y a beaucoup de vestiges, beaucoup de choses à voir. De la culture inca, c'est très très important ici.
Et donc, est-ce
après, il n'y a pas que la culture inca, il y a aussi la culture chanka, enfin, il y en a plein d'autres.
Et voilà.
Et donc, est-ce qu'il y a beaucoup de tourisme par rapport à ça?
Oui. Ah, bah, il y a à Cusco,
c'est la ville la plus touristique.
Beaucoup de musées pour connaître un peu l'histoire des Incas, beaucoup de, comment ça s'appelle? Il y a le temple du soleil,
ouais,
par exemple.
Oui,
pas de monument. Et puis, il y a surtout le Machu Picchu, l'ancienne citadelle Inca, qui est pas très loin de Cusco, qui est c'est les ruines les plus connues du monde, et ça fait venir, c'est le point principal du tourisme ici. Personne passe trop au Pérou sans aller au Machu Picchu.
Mais, du coup, les plats typiques, au Pérou, ça va plus être des plats inca que des plats espagnols, du coup, non?
Non, pas forcément. Il y a aussi des spécialités espagnoles mélangées au Pérou et asiatiques. Et inca, non.
Pas beaucoup
de patates,
inca, ouais.
De pommes de terre.
Donc,
au Pérou, c'est des patates, du riz et du poulet, okay, et des soupes.
Donc, il y a un peu de tout au Pérou.
Beaucoup de féculents quand même.
Ouais.
Mais on mange
ouais, des patates.
Mélangé en fait. Du riz avec des patates.
Les pommes de terre, c'est tout
avec.
Jour.
Il mange des frites.
Tout avec du riz en fait.
Est-ce que vous avez déjà vu des lamas?
Oui.
Est-ce que vous êtes fait cracher dessus par un lama?
Alors, Johanna, elle a failli.
Ah oui.
Elle s'est fait rater dessus.
J'ai
eu peur.
Okay,
sinon, on a eu de la chance.
Donc, ça, c'est un classique de... Comment?
Il n'y a pas tant de lamas que ça, il y a beaucoup plus d'alpagas en fait
que de lamas.
Ouais. Okay. C'est une espèce de lama mouton qui ont des pulls.
Encore plus mignon.
Oui.
Donc, ouais, donc les alpagas en l'occurrence, pourquoi il y en a? Ils sont élevés pour leur laine, c'est ça?
Oui. Qui est très douce et très chaude.
C'est les moutons d'Amérique?
Oui, on mange alpaga aussi. Ouais.
Ok, vous avez déjà mangé de l'alpaga?
Pour moi, oui.
Moi, j'en ai pas mangé encore.
Et c'est bon?
Ouais, c'est plutôt bon. C'est pas très fort comme viande, mais après, ça ressemble quand même beaucoup à un steak. Enfin, ça a pas un goût si particulier que ça, qu'on pourrait le voir. Ah, ce qu'on a oublié de mentionner dans les spécialités culinaires, c'est le couilli. Ah oui, c'est-à-dire le cochon d'Inde ici. C'est le plat très cher que tu peux pas refuser si on te l'offre.
Vous mangez du cochon d'Inde?
Des cochons d'Inde, ouais.
Et c'est bon?
Moi, j'ai du mal. J'aime pas du tout.
Et moi, j'ai toujours pas goûté non plus. Mais je pense que je vais...
Ok, oui, c'est assez particulier.
Coup,
c'est
de façon assez hard. Enfin, on voit vraiment le cochon d'Inde dans son assiette, la bouche ouverte, avec les dents, la langue, les pattes. C'est assez sauvage comme plat.
C'est affreux.
Oui, bah oui, pour nous, occidentaux, oui, c'est un animal de compagnie, donc on a un peu du mal à le voir, à le conscientiser, mais...
Ouais,
ok.
Donc, un Péruvien qui vient... Un Péruvien qui vient en Europe, quand il voit quelqu'un avec un cochon d'Inde dans sa chambre, il doit trouver ça bizarre.
Avant qu'on fasse une pause musicale, est-ce que vous, il y a une thématique, un sujet dont vous voulez vraiment parler et qui vous a marqué en tant que Française au Pérou?
Bah, moi, au niveau de la culture, des gens et de la vie ici, ce qui me marque, c'est le retard, mais pas dans un sens péjoratif, en fait. C'est que on a vraiment l'impression d'être 30 ans en arrière ici pour plein de choses.
Et beaucoup...
C'est un peu à l'arrache ici, en fait, mais c'est trop bien. C'est ça qui est chouette. C'est moins cadré, on va dire. Il y a beaucoup moins de démarches à faire. Enfin, tout se fait très facilement et tu vas dans un endroit, tu lèves la main, quelqu'un s'arrête, il te prend dans sa charrette, tu pars. Enfin, c'est très... Je sais pas comment dire, tout est... C'est ça, tout est un peu à l'arrache et ça a un côté très agréable aussi, du coup.
Un peu plus humain, moins administratif, moins...
Plus humain, c'est moins individualiste qu'en France, moi, je trouve. Et qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, après, même au niveau des... je trouve de l'accueil des gens, enfin, en tout cas dans notre région, il y a très très peu de touristes, contrairement à Cusco par exemple, où là t'es un peu plus, on te parle un peu plus mal et tout. Nous c'est vraiment genre, oh tu es une gringa, donc t'es une étrangère, on te dit bonjour gringa, on veut faire des photos avec toi parce que t'es française ou anglaise, enfin parce que t'es étrangère, et t'es vraiment, on est tout le temps très regardé, mais ouais. Qu'est-ce qu'elles font là, enfin t'es très...
Là, parce qu'ici il y a très peu d'immigration aussi, enfin de pays plus lointains que les pays frontaliers en fait. Enfin, on voit très peu de blancs qui vivent ici. C'est que des latinos quoi. C'est beaucoup moins cosmopolite que chez nous. On est vraiment les seuls de la ville en tout cas, de l'association. Mais ce que je disais moi, c'est vrai pour tout le Pérou aussi.
Ouais,
c'est vrai, t'es encore plus ici comme on est dans une zone pauvre et rurale, paumée dans les montagnes. Mais vraiment les seuls gringos du coin.
Yes. Et pour en revenir, vous, à vos missions, on a parlé au tout début de l'émission. Donc toi, Christelle, t'es en stage, et toi, Johanna, t'es en service civique, enfin en service volontaire. On va y revenir un petit peu. Toi, Christelle, quelles sont tes missions, ton stage? Qu'est-ce que tu y fais en tant qu'éducatrice spécialisée?
Donc moi, mon stage, il se déroule dans une ville qui est à côté d'Andahuaylas, qui s'appelle Talavera. Et donc tous les matins, je me rends dans une école Montessori. Ce qui est assez paradoxal parce que les écoles Montessori en France par exemple c'est international, mais en France c'est très cher, c'est vraiment un peu l'élite qui y va.
Est-ce que tu peux nous décrire rapidement ce qu'est une école Montessori pour les auditeurs?
Oui, alors une école Montessori c'est une école avec une méthode d'éducation alternative, ça va pas être l'éducation nationale. Et donc cette méthode elle repose vraiment sur tout ce qui est sensoriel, c'est que des d'apprentissage par le jeu. Et y a beaucoup de matériel pédagogique qui sera surtout en bois. Donc les enfants en fait sont très autonomes, ils doivent un peu découvrir des principes, apprendre des choses et par le jeu et en autonomie. Et nous en tant que professeurs, on est là pour les accompagner, mais pas pour leur dire voilà ça se passe comme ça, ça marche comme ça. C'est eux qui cherchent, qui découvrent et après qui sont un peu acteurs de leur éducation.
Ok.
Donc, voilà.
Et toi, quelles sont tes missions par rapport à ça en tant qu'EduxP?
Et en tant qu'EduxP, du coup, c'est un stage assez particulier. Il y en a pas tant que ça en règle générale. Mais moi, je suis là pour vraiment apprendre la méthodologie parce que je pense qu'elle peut être très intéressante pour d'autres publics. Et du coup, je suis là vraiment là en tant qu'accompagnatrice, que dans l'aide, il y a aussi un peu de la vie quotidienne. Voilà, c'est vraiment la méthode du laisser-faire, en fait. Mmh.
L'apprentissage par soi-même.
C'est ça, exactement.
Ok, et toi, Johanna?
Alors, donc, moi, je suis volontaire, je suis pas en stage, et je travaille au jardin. Ici, on a une serre et un grand jardin dehors, juste dans l'association. Et alors, moi, j'ai pas fait d'études ou quoi en rapport avec ça, mais... Je savais les différentes choses qu'on pouvait faire ici à l'association et c'est ce qui me plaisait le plus par intérêt personnel. Donc en gros, je jardine, je profite des trucs avec d'autres volontaires. Voilà.
Ok. Et donc ça dure combien de temps?
Comment ça?
Le stage. ton service volontaire.
Et ben du coup, moi, ça aura duré 2 mois.
Ok, vous rentrez toutes les deux au début d'année prochaine.
Voilà, c'est ça.
Ok, très bien. Avant cette pause musicale, moi j'ai une question. Est-ce que vous connaissez Otto?
Otto, non.
Otto, ça vous parle pas? Est-ce que ça te parle, toi, Théo, Otto?
Otto, Otto Dix?
Non, non, Otto, c'est un prénom.
Otto,
Non, ça te parle pas?
Enfin, je connais des gens qui s'appellent Otto, mais...
Maintenant, là, c'est un bulldog skateboarder.
Ah, il est au Pérou.
Ouais, il est au Pérou. Il a battu le record du monde du plus long passage sous un tunnel humain par un chien skateboarder. Et en fait, il a fait ça à Lima, dans la capitale.
Et,
et donc il y a 30 personnes qui se sont mis les uns derrière les autres en écartant les jambes et en skatant tout seul, en donnant un coup de patte et en se montant sur le skateboard. Il est passé sous 30 personnes et donc il a battu le record du monde de skateboard en tant que chien sous tunnel humain. Et donc c'est en direct du Pérou. Et donc voilà, c'était la petite anecdote péruvienne. Avant cette deuxième pause musicale, vous avez choisi quoi comme pause musicale, les filles?
Alors c'est un groupe qu'on a découvert dans un bar à Cusco, mmh. Et on a vraiment eu un gros coup de cœur pour ce groupe. C'est donc un groupe de Péruviens qui ont vraiment chacun, ils sont combien? Ils sont sept.
Ils sont sept.
Oui. Sept. Ils ont tous un instrument différent. Ils ont chacun un style différent. Et
voilà,
par contre
du reggae, de la musique traditionnelle, du hard rock et le mélange est super chouette. Et on a appris après coup parce qu'on est retourné dans ce bar du coup. Qu'ils avaient été finalistes de Incroyable Talent péruvien.
Ok.
Voilà.
Yeah. Incroyable Talent s'exporte partout.
Comment?
Incroyable Talent, ouais, ça s'exporte partout.
C'est international. Hein.
Ouais. Et donc, oui, je t'ai coupé, donc, ça s'appelle comment?
Amaru Pumak Kuntur, ça c'est le nom du groupe.
Ok.
Et le morceau, qu'est-ce qu'on a comme morceau? On peut choisir Poutoutous Oui Palace.
Très bien, on vous laisse le dire et puis on se retrouve juste après. À tout de suite.
Ay, pardon, los papachos, este tema que se llama Jululuy.
Suena muy falaz, huyen de lejos sus voces venir. Los joyas suyos vienen llegando, trayendo alegría, paz y amor. Hololoy, hololoy, trayendo alegría, paz y amor. Hololoy, hololoy, trayendo alegría, paz y amor. A Cusco llegando yo me enamoro de una linda chascañahui. Sus polleras, sus trenzas largas, en una linda chascañahui. Hololoy, hololoy, 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 en una linda chascañahui.
Gracias. Amaru.
Alors c'était la pause musicale avec allez-y.
Amaru Pumakuntur Pututus Wipalas.
Donc ça veut dire quoi le titre de la musique?
Alors on n'a aucune idée parce que c'est du quechua en fait.
C'est quoi du quechua?
Alors quechua c'est une langue d'ici et enfin, dans beaucoup de régions, ouais, et en particulier dans la nôtre. Et donc c'est vraiment une langue que je trouve très jolie mais qui est très très dure à apprendre parce qu'elle ressemble vraiment à rien qu'on connaît. Et ils font beaucoup d'efforts ici pour pas que cette langue se perde. Parce que tous les enfants apprennent très vite l'espagnol et elle a tendance du coup quand même à se perdre dans toutes les villes. Donc par exemple dans mon école, on apprend beaucoup de chansons en quechua pour faire perdurer un peu cette langue.
Est-ce que vous avez une expression ou un mot à nous dire en quechua?
Moi je sais dire imai sutiki, ça veut dire comment tu t'appelles.
Imai sutiki. Très bien.
Et
bien, comme ça, on aura découvert une nouvelle expression en quechua.
Le nom de notre association aussi, c'est Munai Wasi. Et Munai, c'est l'amour. Et Wasi, c'est la maison. Donc, voilà. Maison de l'amour.
C'est poétique, c'est beau.
C'est juste beau. Alors, pour la conclusion, que retenez-vous de cette aventure au Pérou?
Une expérience vraiment très enrichissante, un pays où on aimerait vraiment revenir, peut-être vivre quelques temps plus tard. Ouais. Et je pense qu'on va revenir changer, qu'on va revenir peut-être un peu, comment ça se dit, en mode un peu à l'arrache, un peu trop pour la France. Il va falloir vite se remettre dans le droit chemin, on va dire. Et puisqu'on n'a pas mentionné trop, mais ce qu'on retiendra aussi, c'est les endroits de fous et magnifiques qu'on aura vus ici, parce que c'est vraiment un très beau pays avec beaucoup de paysages très variés et plein de superbes choses à voir. Enfin, il y a le lac Titicaca, le Machu Picchu, il y a vraiment plein de choses à voir de manière esthétique et historique aussi. Voilà.
Est-ce que vous avez une anecdote drôle ou pas à nous raconter sur votre voyage?
Oui, par exemple, pour les anniversaires. Alors ils font surtout ça pour les enfants, mais nous on trouve ça drôle de le faire aussi aux adultes aussi, c'est même plus drôle. Ils font des énormes gâteaux très crémeux et très très colorés avec, qui sont géants. Et donc la tradition à ton anniversaire, c'est que tu dois un peu mordre dans le gâteau et il y a quelqu'un derrière toi qui va vraiment te mettre la tête bien comme il faut dans le gâteau et histoire que t'aies vraiment le visage le plus coloré possible.
Est-ce que vous avez voilà. eu la chance de fêter votre anniversaire au Pérou?
Non, mais on en a fêté plusieurs. Des volontaires de l'asso, voilà.
Ok. Donc vous n'avez pas eu ce passage obligatoire de la tête dans le gâteau crémeux, mais vous avez pu le.
On va apporter ça en France. Je pense que ce serait une bonne idée de faire ça chez nous aussi.
Très bien. Bon, je sais pas si je voudrais vous voir tout de suite les filles à votre tour.
Comment dit-on au revoir en quechua ou en espagnol? Enfin, si vous savez le dire en quechua, c'est mieux.
En quechua, je ne sais pas. En quechua, non, on ne sait pas. Et en espagnol, il y a plein de façons. Varié.
Normalement, c'est adios, mais ici, on dit beaucoup de ciao.
Bah, ciao alors.
Ciao les filles.
Ciao les gars.
Salut à toi, oh mon frère. Salut à toi, peuple khmer. Salut à toi, l'Algérien. Salut à toi, le Tunisien. Salut à toi, Bangladesh. Salut à toi, peuple grec. Salut à toi, petit Indien. Salut à toi, punk iranien.